Chapitre 10. Ferdine voit le monde. Le grand jour, ou plutôt le soir mémorable, était arrivé. Les pensionnaires de Bonne-Grâce, dans leur chambre, s'occupaient, un peu plus longuement qu'il n'eût fallu, à lisser leurs cheveux, à passer la robe des grandes solennités. Ferdine achevait de natter ses cheveux et se défendait vigoureusement contre May, qui voulait à toute force lui faire échanger contre un ruban rose, le simple ruban noir nouant ensemble sur la nuque ses deux longues nattes. « Un ruban rose, mais Baudroit, pour que j'aie l'air d'une danseuse de cordes !» s'écriait-elle indignée. « Mais tu verras de jolis rubans à toutes ces demoiselles, et des colliers et des manches courtes. On leur permet les manches courtes jusqu'au coude pour une soirée. Laure Grisel dit qu'on a des idées très larges, à Bonne-Grâce, beaucoup plus larges que dans la pension où elle était précédemment. » Je me suis faufilée dans sa chambre avant de monter. J'ai vu sa robe, Ferdine, une grande collerette maintenant, en dentelle pas vraie, mais large comme cela, et au bout des manches, un volant en dentelle pareil. Agrafe-moi dans le dos, veux-tu ? Dit Ferdine assez brusquement. Mais s'agenouilla sur une chaise, et tout en rendant à sa compagne le service demandé, elle continua son petit bavardage. Jamais tu n'auras la taille aussi fine que Léa Gaillère. Il faut commencer jeune à se serrer, disent ces demoiselles, les grandes. Isaline assure que les statues grecques ne se serraient pas, mais elle n'en peut rien savoir, puisque c'était, il y a très très longtemps, avant le déluge. Combien de centimètres de ceinture as-tu, Ferdine ? Je ne me suis jamais inquiétée de le savoir. Non, toutes les grandes le savent, et aussi la longueur de leurs cheveux. Moi, je te trouve un peu épaisse à la ceinture. Mais pour avoir tes nattes, elle donnerait beaucoup, je t'assure. Léa Gaillère m'a fait des questions. Elle voudrait savoir si tu emploies l'élixir Melrose ou l'autre. Comment s'appelle-t-il ? Le Windsor, pour tes cheveux. Les siens sont drôles, ne trouves-tu pas ? Je souhaiterais avoir sa taille, mais non pas ses cheveux. Maintenant, Ferdine, jette un coup d'œil à mon ensemble. Lentement, gravement, May tourna comme sur un pivot, les coudes rapprochés de la ceinture, l'avant-bras un peu élevé et la main pendante. « Tu as l'air d'un joli petit caniche bien dressé, » dit Ferdine en riant. « Méchante !» fit May, dont la lèvre aussitôt devint boudeuse. « Et j'ajoute, bien habillée, » poursuivit Ferdine impitoyable. Tu n'as pas la prétention, j'imagine, d'avoir l'air d'une petite fille intelligente, spontanée, intéressante. Bien dressée, bien habillée, c'est tout ce que tu veux être, n'est-ce pas ? Es-tu prête ? Moi je le suis, à moins que tu ne m'aies agrafée de travers. Dépêchons-nous de descendre. Ferdine n'était point cependant aussi détachée des vanités extérieures que son austère langage eût pu le faire croire. Elle ne voulait pas que Siméon la trouvât fagotée, et puis elle devinait que, pour se sentir aisée et naturelle au milieu de ses compagnes, il fallait ne se distinguer d'elle ni par trop de rusticité, ni par trop d'élégance. Ce n'était point dans ce dernier excès qu'elle risquait de tomber. Elle avait consulté Mademoiselle Octavie, qui fit pour elle deux ou trois achats indispensables, bas fins. Mademoiselle Caton avait bourré tous les angles de sa malle de gros bas de laine bien solides, faits à la maison. Jolies petites pantoufles vernies et des gants de soie gris pâle assortis à la robe de foulard qu'une petite couturière attitrée à Bonne-Grâce rajeunit un peu. Assez modeste pour passer inaperçue, assez soignée pour ne craindre aucun regard, la toilette de notre Ferdine était bien ce que devait être toute toilette de jeune fille. « J'ai promis à Louise de la prendre en descendant, » dit Ferdine, qui s'arrêta pour frapper à une porte au fond du corridor. Et May fut enchantée de cette occasion de pénétrer chez Million, où n'entrait pas qui voulait. Louise avait reçu de sa grand-maman une réponse qui permettait, en vers, de se commander une robe tout à fait à son gré, et qui lui expliquait, en prose, qu'un tuteur n'a pas le droit de disposer des biens de sa pupille, même en faveur de personnes aussi méritantes que les cousins Gousset. Louise, d'ailleurs, maintenant qu'elle possédait sa Ferdine, n'était plus si fâchée d'être millionnaire. Elle était toute changée, la petite Louise Miserlet, n'ayant pas versé une larme depuis 4 jours, les cheveux bien arrangés par la femme de chambre, non plus tirés à la chinoise pour découvrir un front déjà trop grand, mais un peu lâches et bouffants, et frisotant presque, comme tout étonnée et heureux de ce nouveau pli. « Que tu es bien, Louise !» s'écria Ferdine, ravie. « Tu trouves ?» fit Louise, tombant à son cou, toute confuse. « Que dire de toi, alors ? Ah, tu es bien la plus chère, la plus généreuse amie !» Mais Baudroy, à qui ces effusions semblaient peu intéressantes, inspectait Louise de la tête aux pieds et d'un air déçu. « On assure que vous avez tant de jolies choses, s'écria-t-elle enfin, et vous n'en portez aucune. « Je n'ai pas envie de ressembler à une idole, dit Louise qui rougit. « Mais attendez, fit-elle avec vivacité, ouvrant une petite boîte d'ivoire fouillée à jour qui se trouvait sur la table. Elle en tira une mignonne mouche de corail rose montée sur une frêle tige d'or en épingle. « Je vous la donne, fit-elle, piquant l'épingle un peu au hasard dans le corsage froncé de la petite fille. « Je vous la donne parce que vous êtes la petite compagne de ma chère Ferdine et qu'elle ne veut rien accepter de moi pour elle-même. » Rien n'eût pu être plus agréable à Ferdine, qui était encore sensible à l'opinion et qui savait bien qu'en un quart d'heure, Mai Baudroy aurait répandu l'histoire dans tout le pensionnat. Qu'il était splendide, aux yeux inexpérimentés des deux fillettes, le grand salon de bonne grâce, gaiement éclairé par les lampes électriques qui ressemblaient à des fleurs laiteuses sur les tentures rouges sombres. Le parquet de bois clair, ciré, luisait comme un miroir. Des plantes aux larges feuillages richement décoratifs formaient, dans l'angle, un fond pittoresque au grand piano drapé de peluche, à la banquette en bois de Suède sculpté, où les guitares et les mandolines attendaient, couchés, leurs rubans brochés d'or ondoyant jusqu'à terre. Des fauteuils, des chaises, semblaient groupés au hasard autour de petites tables paysannes ou des guéridons japonais sur lesquels il est commode de poser sa tasse de thé. Mais le hasard gracieux s'appelait Mademoiselle Octavie, qui pensait à tout et n'aimait point à voir un monsieur malheureux errant sa tasse à la main ou une dame réduite à poser la sienne sur la banquette à côté d'elle au grand risque d'inonder sa robe. Il y avait une foule de petites tables dans le grand salon de bonne grâce et si, comme on l'a dit, l'esprit d'une femme se mesure au nombre de tables qu'elle possède, Mademoiselle Octavie, bien qu'elle n'en eût point la prétention, était une des personnes les plus spirituelles de la terre. Ferdine, impressionnée, s'arrêta un instant sur le seuil et puis serra instinctivement le coude de Louise, mais elle se souvint à temps que, d'après sa théorie sur le naturel, on entre dans un salon comme dans une grange. Elle s'avança d'un pas ferme, presque militaire, entraînant Louise, qu'une crise de timidité paralysait presque et qui avait comme un horrible pressentiment qu'elle allait glisser sur le parquet. Mademoiselle Octavie vint à leur rencontre, les enveloppa d'un regard rapide et bienveillant, fut soulagée de ne voir aucune agrafe précieuse et brillante au cou de Louise, aucun bracelet à ses poignets, mais une robe simple et bien faite, d'un bleu très doux, sans ornement. Elle aussi avait entendu parler de la cassette de Golconde et elle avait craint que la pauvre Louise n'en tirât pour cette grande occasion un ruissellement de bijoux exotiques. « Vous êtes très bien toutes les trois, » dit-elle avec un gai sourire, passant sous son bras la petite main de Mai Baudroy. « Venez saluer ma tante et figurez-vous que je suis votre chaperon, car vous n'êtes point ici pour vous amuser, pauvre petite, » ajouta-t-elle en riant, « mais pour apprendre les usages du monde. » Quand on arrive en soirée, on va tout droit saluer la maîtresse de maison. Oh, pourvu que Siméon le sache, pensa Ferdine, prise de détresse. Il est bien capable de saluer Mademoiselle Octavie d'abord, et puis de me chercher, le malheureux. Mais non, Siméon connaissait déjà les usages, apparemment, car lorsqu'il parut au seuil du salon, son regard alla droit à Mademoiselle Audimbert, tout au fond, sur un sofa, et tout droit aussi, il cingla vers elle. Ferdine remarqua qu'il portait des souliers à la mode, vernis et très pointus, et qu'il tenait à la main un gant jaune foncé. Elle l'admira. Il s'arrêta devant Mademoiselle Audimbert et subitement baissa la tête en un plongeon, comme si on lui eût asséné un coup sur la nuque. Ferdine comprit que ce devait être là le genre de salutation à la mode. Elle s'alarma presque de voir Siméon possesseur et tranquille possesseur d'un tel comble de science. Il ne semblait nullement troublé, il osait regarder autour de lui, et quand il aperçut Mademoiselle Octavie, qui pourtant se trouvait de nouveau à l'autre bout du salon, il retraversa sans crainte cette vaste étendue de parquet ciré. Ferdine l'admira davantage. Elle s'était assise un peu à l'écart, avec Louise, qui ne la quittait pas plus que son ombre. Les jeunes gaillères étaient déjà arrivées sous l'égide de leur maman. Quoi de plus naturel, de plus indiqué pour Siméon que d'aller aussitôt présenter ses respects à Madame Gaillère, puisqu'il avait dîné chez elle plusieurs fois et qu'il avait beaucoup d'obligations au docteur Gaillère? Mais était-il bien indispensable, se demandait Ferdine dans son coin, qu'il causât aussi longuement avec elle et puis qu'il se laissât retenir par Mademoiselle Jeanne, laquelle semblait avoir des choses d'une haute importance à lui communiquer? Tout à coup, le piano se fit entendre, c'était l'ouverture du concert, un morceau brillant à quatre mains d'Isaline Monnier et de Laure Grisel, les deux élèves les plus avancés de M. de Brume. Chacun se tut, car Mlle Audimbert n'entendait pas plaisanterie sur ce chapitre. Quand elle invitait des personnes de la ville à écouter la musique de ses élèves, c'était pour qu'on écoutât. Siméon resta donc à la place où il se trouvait, debout derrière Madame Gaillère, mais si ses pieds étaient captifs, ses yeux, libres d'errer, cherchaient partout Ferdine, la découvrirent bientôt, lui envoyèrent un petit signe et un sourire. À tort ou à raison, Ferdine trouva ce sourire condescendant. Peut-être ne se trompait-elle pas tout à fait. Nous sommes obligés de l'avouer ici, Simon était en train de faire des bêtises. Non pas des bêtises graves, ce qu'on appelle de vrais écarts, mais des bêtises d'imagination et de vanité. La préférence marquée des jeunes gaillères le flattait. Il connaissait trop peu le monde, il avait trop peu de points de comparaison pour discerner ce qui, dans leur conversation, dans leur manière, était à fêterie pure et sonnait faux. Très intelligent pour les choses de la science, droit et loyal dans sa conduite, il était encore, fort heureusement, simple et naïf, notre brave Siméon Taubert. On l'éblouissait sans peine. Les phrases cajoleuses de Jeanne, ses prédictions d'une carrière de grand savant, les petits conseils qu'elle lui glissait sur sa tenue, sur ses vêtements, sur le genre anglais, tout cela impressionnait Siméon plus qu'il n'eût fallu. Il y pensait beaucoup. Il oubliait un peu Ferdine, qu'il aimait toujours comme sa petite amie. Mais quoi ? Ferdine était une pensionnaire, une fillette de 15 ans, encore fruste, pleine de brusquerie, tandis que Jeanne Gaillère connaissait le monde. Cher Siméon, combien candide était le jouvenceau qui s'imaginait que Jeanne Gaillère, avec son petit jargon appris et son anglomanie, connaissait le monde. Cette pauvre Jeanne, toute de surface et d'apparence, se l'imaginait également. Sans intelligence bien remarquable, elle se jouait à elle-même le rôle d'une jeune personne moderne, au courant de tout, et qui se fait l'égérie des jeunes gens informés. Elle souhaitait d'en avoir un cortège après elle, et pour commencer, elle enjôlait Siméon, auquel elle ne tenait pas plus, réellement, qu'à son lacet de bottines. Mais il avait une histoire, celle de la découverte d'une source. On prétendait qu'à sa majorité, cette source, qui représentait un gros revenu, devait lui faire retour. Ceux des amis de Siméon qui connaissent toute l'histoire, ayant lu Feuille de trèfle, savent bien qu'il n'en était rien. Mais on raconte tant de choses inexactes dans ce monde. Il se forme si vite une légende autour du moindre incident. Jeanne faisait semblant de croire à la légende, la propageant parmi ses amis et déclarant qu'elle était fort intime, genre anglais, avec le jeune Taubert. Bref, comme Mademoiselle Octavie l'avait deviné, Siméon était occupé à acheter une expérience qui lui coûtait déjà un peu cher, en temps perdu, en pensées inutiles et aussi en argent, car les souliers pointus, les gants jaunes, le veston à la mode ne se donnaient nulle part gratuitement. Souhaitons pour lui qu'au moins l'expérience, une fois acquise, vaille bien ce qu'elle a coûté. L'ouverture pour piano finit dans un bruit discret d'applaudissements. Siméon allait s'éloigner quand Jeanne tourna la tête et d'un petit signe d'éventail le rappela. Cette jeune fille en bleu de lin, à côté de votre petite payse. Cela amusait Jeanne d'appeler Ferdine votre petite payse. Serait-elle la célèbre Million, l'héritière de Château Pointu? Léa ne cesse d'en parler quand elle vient à la maison. Je suis peu au courant de la chronique de Bonne-Grâce, dit Siméon mal à l'aise, car il était grand temps qu'il allât s'asseoir près de Ferdine. Mais je crois qu'en effet, la voisine de ma petite amie est Mademoiselle Louise Miserlet. Elles sont extrêmement liées, n'est-ce pas? C'est même un attachement romantique. Ah, chut! Taisons-nous, car les guitares commencent. Siméon n'osait plus tourner les yeux du côté de Ferdine, car il croyait sentir son regard plein de reproches et d'indignation. Il se trompait. Ferdine, les paupières baissées, l'air un peu triste et comme recueilli, regardait au-dedans d'elle-même. Elle avait vu le manège de Jeanne Gaillère, son petit geste de rappel. Elle avait trouvé que Siméon mettait beaucoup trop de complaisance à cet entretien. Il aurait pu brusquer la situation et dire « Pardonnez-moi, mais Ferdine m'attend ». Il possédait bien assez d'aisance et d'aplomb pour se dégager poliment. S'il ne le faisait pas, c'est que décidément, il aimait mieux affliger Ferdine que de contrarier Jeanne. Notre petite Ferdinette sentit comme une grande vague de chagrin et d'amertume passer sur elle. Ses yeux se remplirent de larmes. Et puis, tout à coup, ses pensées devinrent si méchantes qu'elle eut peur. « Oh, cette Jeanne, cette Léa, comme elle les détestait! Oh, l'atroce jalousie, l'affreux désir de se venger en faisant souffrir !» Alors, sur sa main involontairement crispée, elle sentit la main de Louise se poser tout doucement, et la voix de Louise murmura comme un souffle dans leur petite retraite qu'enfermait à moitié le rideau. « Je te comprends bien, va !» À ce mot de sympathie, qui fit presque jaillir ses larmes, Ferdine se souvint. Mademoiselle Octavie lui avait dit « Aimez Louise » et, en obéissant, elle avait trouvé un trésor. Quel précieux conseil l'ami plus âgé lui avait donné là et combien il était doux maintenant d'aimer Louise et de se comprendre toutes deux. Mais Mademoiselle Octavie avait dit encore « Il faut s'oublier soi-même ». « Je le voudrais bien, » pensa Ferdine. « Oh, comme je le voudrais! Je me sens presque criminelle de les détester ainsi. » Elle baissa les yeux, ses mains se rapprochèrent comme celles d'un enfant qui supplie, et du fond de ce jeune cœur impétueux monta une prière. « Mon Dieu, que je ne sois plus jalouse !» Et puis, quand elle regarda de nouveau autour d'elle, tout était comme changé. Siméon s'approchait. Elle put l'accueillir avec un gai sourire sans contrainte, et lui, un peu honteux, touché, sentit qu'il aimait bien tendrement sa petite Ferdine. Ils causèrent. Million se serrait contre son amie et balbutiait un peu, car elle trouvait Siméon extrêmement imposant. Dans un angle du salon, Mademoiselle Octavie servait le thé, assistée de deux grandes pensionnaires et de deux petites qui apprenaient à offrir gentiment la tasse pleine et à demander d'une voix douce « un peu de crème ». Mais Baudroy était dans son élément. Elle faisait semblant de ne pas entendre les dames qui disaient « Quel est le nom de cette gentille enfant ?» Mais elle les entendait fort bien et elle souriait avec la suavité d'un petit ange, toute innocence et candeur. Elle présentait sa corbeille de petits gâteaux sur ses deux mains étendues, d'un mouvement gracieux, naïf. Sa robe de lainage blanc n'avait pas un faux pli. Ses jolis cheveux blonds ondoyaient à chaque mouvement et la petite coquine trouvait moyen de donner à ses yeux un regard timide qui gagnait les cœurs. Timide ? Ah, quelle erreur ! Dit Léa Gaillère à un vieux monsieur qui la questionnait sur cette ravissante enfant. Ingénue ? Comme vous vous trompez ! C'est une petite coquette. Observez-la quand elle passera devant ce grand miroir là-bas. » Ils la suivirent en souriant, la virent jeter un rapide coup d'œil à sa jolie image que reflétait tout entière la glace un peu inclinée, puis secouer une de ses longues boucles blondes pour la faire s'étaler sur l'épaule plus avantageusement. Et quand elle arriva devant le vieux monsieur avec sa corbeille, il la regarda et fronça le sourcil. C'était un vieux monsieur qui aimait à sermonner les enfants. Ah, ma petite demoiselle, il ne faut pas être coquette et s'étudier dans les miroirs. Ce n'est point joli, dit-il. Il hocha la tête du côté de Léa, qui riait malicieusement. Mais devina tout de suite qu'on avait parlé d'elle. Pourpre de colère et de confusion, elle baissa les yeux, serra les lèvres et se dit : Léa Gaillère, vous me revaudrez ça. un souvenir lui vint instantanément. Elle se dirigea vers le coin un peu retiré où Siméon, Ferdinand et Louise, très heureux ensemble, continuaient leur causerie. « Des petits gâteaux, Ferdinand. Siméon, vous n'en avez pas encore pris. » Et comme il étendait la main vers la corbeille, May le considérait rêveusement. « Qu'avez-vous à me regarder ainsi, mademoiselle May ? » demanda-t-il en riant. « Vous ne me reconnaissez pas ?»« Siméon, » fit-elle d'un air ingénu, « expliquez-moi donc ce que c'est qu'un paysan du Danube. Ferdinand prétend que le Danube est au Congo, mais je sais bien que non. » Ferdinand, vaguement inquiète, se souvint à demi de quelque allusion à laquelle elle n'avait prêté qu'une oreille distraite un soir. Elle écouta. « Mademoiselle May, si vous saviez votre La Fontaine, dit Siméon, vous n'auriez pas besoin de me questionner. C'est lui qui nous décrit ce bon paysan du Danube, très laid et très intelligent. »« Très laid et très intelligent, répéta May. Est-ce qu'il avait votre âge ?»« Voici, dit Siméon, cherchant dans sa mémoire les vers familiers qu'il avait appris autrefois sans en comprendre la fruste beauté. Voici. Le personnage en raccourci. Son menton nourrissait une barbe touffue. Toute sa personne velue représentait un ours, mais un ours mal léché. » La fillette secouait la tête. « Ce n'est pas cela, » dit-elle. « Comment ce n'est pas cela? Je ne me trompe pas d'un mot, » dit Siméon poursuivant. Sous un sourcil épais, il avait l'œil caché, le regard de travers, nez tortu, grosses lèvres. « Oh non, ce n'est pas cela du tout, » s'écria May. « Vous n'avez pas le nez tortu, Siméon. Il est un peu large du bout, votre nez, mais il est droit. Je n'imagine pas comment Léa Gaillère peut vous appeler un jeune paysan du Danube. » Et elle resta là, son trait lancé, glissant de dessous ses longs cils, un regard malin à Siméon, devenu très rouge et très grave. Ferdinand avait bonne envie d'éclater de rire et d'embrasser May Baudroit. Quand elle vit la confusion de son amie, elle se contint, chercha quelque chose à dire. « C'était sans doute au commencement, dit-elle, quand tu étais comme moi un peu rustique. Je le suis toujours, mais tu es devenu très homme du monde, Siméon. » « Oh non, » fit-il avec quelque amertume, « car je n'admets pas encore qu'on se moque de ses amis derrière leur dos. Du reste, Léa Gaillère est une petite sotte. Sa sœur Jeanne est beaucoup plus sérieuse. » Déjà, May voltigeait ailleurs avec sa corbeille, contente de s'être vengée, les joues rouges de plaisir et les yeux brillants. On organisait une charade à laquelle Ferdinand prit part avec entrain. Le cœur déchargé, libre de jalousie, elle ne s'inquiétait plus de compter les minutes que Siméon passait près de la chaise de Jeanne, ni les mots qu'ils échangeaient. Une chose lui importait maintenant, apprendre à fond la leçon difficile dont elle venait d'épeler le premier mot.